Bonsoir.
Bonsoir.
L'équipe d'Imaginaire, une nouvelle équipe un petit peu par rapport à la dernière émission avec Sébastien et puis Karine. Tu vas nous parler d'un gros bouquin.
Oui, que tout je vois devant toi. Mais très passionnant. Je vais vous parler de Meute de Karine Renberg qui a été publié aux éditions ActuSF.
Ok, et on va avoir notre première interview de cette nouvelle saison. Là, on peut dire qu'on attaque notre 11e saison radiophonique aujourd'hui, après une petite pause vacances. Et donc, Sébastien, on va avoir l'interview au téléphone de Jérémy Grima.
Voilà, Jérémy Grima, donc à l'origine de la collection Carnage, donc qui reprend un peu les mêmes codes de trash, gore d'anciennes collections très sanglantes.
Voilà. Livre pour adultes avertis.
On s'entend.
Ouais, on va l'avoir au téléphone dans à peu près 15 minutes. Et il nous a fait quelques petites sélections musicales et on va commencer cette émission par son premier choix. C'est Hangman's Chair que j'ai vu en concert il y a 3 jours, je crois, au Motocultor à Saint-Nolf. Petit festival metal punk bien sympathique. Et d'ailleurs, il y avait un market là-bas sur place, et parmi les exposants, il y avait Will Argunas. Will Argunas, qui est le dessinateur de toutes les couvertures de la
Carnage.
Collection Carnage, voilà. Ouais. Donc on a papoté un petit peu, ça m'a permis de préparer mon interview, qu'on va avoir dans quelques minutes sur le 101.5. Allez, c'est parti avec Hangman's Chair. Chair avec le morceau Cold and Distant dans l'imaginaire sur Radio G. Sébastien, tu me disais que toi ça te faisait penser.
Moi, ça m'a fait tout de suite penser à Cosmos Cannibal, donc, voilà, écrit par Jérémy, et ça cadre bien avec la tension qui palpite dans le bouquin entre deux familles qui vont s'affronter, donc avec beaucoup d'effets sanglants.
On lui posera la question dans quelques minutes, mais avant, c'est l'heure de la chronique de Karine.
En effet. Mute est un roman d'urban fantasy entre le fantastique et la fantasy. L'autrice nous fait découvrir le parcours de trois personnages principaux, Nat, Val et Calam, en alternance au fil des chapitres. Le premier est un loup-garou habitué à la violence et au combat dans les docks, un quartier pas très fréquentable. Le second est un humain qui a perdu sa voix. Et le troisième est un personnage bien mystérieux qui va déboussoler les habitudes des uns et des autres. Tout le monde devra donc trouver un autre équilibre et les choses ne seront pas si évidentes. Des affrontements pour la survie des loups-garous, des pertes de repères, des liens incontrôlables mèneront les personnages sur une autre voie. Je ne vous en dis pas plus, pour découvrir le parcours de ces personnages très attachants, il va falloir le lire. Karine Renberg, développe surtout les failles et l'évolution des personnages au travers son récit. C'est un roman dit tranche de vie. Il est très psychologique car il met en avant des personnages très humains et leur construction. Elle s'intéresse aux liens que peuvent tisser les personnages malgré leurs différences en mettant en lumière une forte amitié entre loup-garou et humain et ou une meute de loups qui ont tous un caractère distinct, mais également des différences à la fois de mode de vie et de communication. Meute est assez originale pour plusieurs raisons. L'utilisation des couleurs pour exprimer des ressentis et des émotions, la mise en avant d'un personnage qui signe, un moyen de communication rarement illustré en littérature, et l'utilisation de la deuxième personne du singulier qui souligne une narration proche de ces personnages, ce qui pousse le lecteur à se prendre dans une écriture très intime dans un sens. Il pousse le lecteur à une réflexion, une introspection sur les liens que nous pouvons créer, comment on les crée et pour quelles raisons. Mais aussi à travers des difficultés que l'on peut vivre, de notre construction due à celle-ci et des changements qui peuvent nous faire évoluer sans qu'on soit vraiment prêt. L'autrice est une jeune autrice nantaise qui a su, avec ce premier roman Meute, construire un bel univers rempli de magie et de mystère, dont la plume est à la fois brute et pleine de sensibilité. Je vous invite donc vivement à découvrir ce roman et cette autrice. Pour poursuivre, je vous laisse avec Lutté du groupe Takada Jones sur Radio G. Se défiler, je vais assumer.
toujours ma place.
Eh ben, allô, Jérémy ?
Ouais,
ah
salut.
Ben voilà, ça marche. Ça va ?
Eh ben nickel, très bien, impeccable, ouais.
Nous on a super chaud dans le studio de Radio G, on a coupé le ventilateur.
Ah mais c'est une bonne idée.
Ça parce que c'est, non mais ça fait beaucoup de bruit aussi.
Ah ouais d'accord. Ouais.
Et donc voilà. En plus vous nous avez sélectionné que de la musique ultra violente ce soir donc.
Ultra violente, s'en fout. Qui bouge quoi. Deux jeunes.
Ouais c'est clair. Alors on va te demander de, on va surtout parler de la collection Carnage ce soir.
Ouais.
Mais je crois qu'on va prendre un peu les tomes les uns après les autres dans l'ordre dans lequel ils sont sortis. Mais est-ce que tu peux te présenter toi d'abord ?
Ouais, bah écoute, si tu veux, moi donc c'est Jérémy Grimard. Je vais parler surtout de ce que je fais de, au niveau de Zone 52 édition. Hein, donc j'ai monté cette structure d'édition il y a 7-8 ans maintenant. Donc c'est une petite structure d'édition. J'ai sorti quelques romans, dont les miens, sur cette structure, quelques bouquins, notamment les livres de Michel José, un ami écrivain qui écrit des petits bouquins vraiment super. Donc voilà, écoute, moi j'avais sorti 3 bouquins sur la musique, en fait, sur le métal, à partir de 2000, que je ne dise pas de bêtises au niveau des dates. Je crois, le premier Trace écrite, c'était en 2013, chez Camion Blanc. C'était un livre sur Suppuration, un groupe de death metal du nord, hein, de la France. Et puis voilà, puis écoute, pour mon deuxième bouquin, Metal Bunker, j'ai eu envie de monter ma propre structure d'édition pour apprendre un petit peu plus sur le métier, et puis voilà, avoir un petit peu en main toutes les facettes de la sortie d'un livre, quoi, de l'écriture à la vente. Et puis l'expérience m'a bien plu, donc j'ai continué à sortir d'abord mes bouquins, puis après ceux d'auteurs qui me contactaient, et puis de copains auteurs, quoi. Hein. Et puis donc voilà, ça nous amène à la collection Carnage il y a à peu près 2 ans. Voilà, cette idée a germé de sortir une collection de petits romans gore, horreur, gore, légèrement porno aussi par moment, en hommage à la collection gore de Fleuve Noir, tu vois, des années 80, dont je suis un admirateur et un amateur. Donc voilà, cette collection elle a commencé il y a 1 an et demi, on en est à 8 tomes, ça marche plutôt pas mal, parce que à tous les niveaux, donc ce qui me fait extrêmement plaisir. Voilà, autant au niveau des manuscrits que j'édite, hein, parce que je suis hyper content des auteurs qui travaillent avec moi, et puis que du public qui est présent, quoi, qui a répondu présent sur cette collection. Donc voilà, pour mes activités, en tout cas au niveau de l'édition et de l'écriture.
Ok. Et l'idée est venue comment, alors vraiment de... Alors, on avait eu les éditions Trash, hein,
ouais,
on les connaît bien,
Angers,
nous, à Angers.
Ouais.
Qu'on fait 20 tomes et puis mis la clé sous la porte.
Et Dimension Trash.
Ouais. Ils ont arrêté, je sais pas si c'est vraiment la clé sous la porte, ils ont arrêté parce qu'ils étaient arrivés au bout de la collection aussi. Hein. 20 tomes, c'est un sacré exercice. Hein. Oui, collection Trash. Ben oui, moi j'étais un collectionneur, hein, de la collection Trash. J'ai été, d'ailleurs, je suis rentré en contact à l'époque avec Julien Elbrock, qui est un des 2 ou 3 qui tenait les rênes de la collection. Alors l'idée elle a germé, j'étais pas tout seul en fait à la base, hein, parce que l'idée a germé sur un salon littéraire sur lequel j'étais invité avec une autre personne qui était là. On a eu l'idée à 2. Parce qu'on était passionnés tous les deux par la collection Gore, puis on s'est dit, mais bon, ça, en fait, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que tu fais tout à fait bien de souligner la collection Trash, il y a eu la collection Gore, après il y a eu la collection Trash, puis quand ils ont arrêté, c'est vrai que le créneau était un peu libre, quoi. Hein. Et c'est moi, en tant que lecteur, ça me manquait d'avoir ces petits romans là de 180-200 pages qui se lisent très vite, avec des trucs très cul, très gore, qui se lisent comme on regarde une série B de films d'horreur, quoi. Donc on a eu l'idée avec cette personne de monter cette collection, on l'a montée à 2, bon l'histoire a fait qu'on a pu faire que 2 tomes ensemble, ensuite j'ai repris les rênes tout seul, parce que c'était un petit peu compliqué avec cette personne, enfin je passe les détails. Donc voilà, en fait cette idée, si tu veux, elle a vraiment germé de la part de passionnés à qui cette collection manquait, en fait, ces petits romans manquaient. C'est-à-dire que je pense que si Trash avait continué, je me serais contenté de les lire et pas d'en sortir moi-même, quoi. Et c'est vraiment parce que j'avais envie de relire ces petits bouquins. Donc comme personne avait a priori envie de le faire, et ben écoute, voilà, je l'ai fait moi-même, quoi.
Et donc effectivement, on a le même format, hein, un format poche.
Ouais.
Et avec un logo avec le G qui rappelle le G de Gore.
Oui, tout à fait. Oui, bah alors le logo, on le doit à Will Argunas, hein, qui est l'artiste qui s'occupe de toutes les couvertures des bouquins depuis le début, hein, donc qui est une pierre angulaire de la collection, clairement, parce qu'il apporte une identité visuelle, je trouve, complètement dingue à la collecte. Hein, c'est un génie pour moi d'illustration. C'est vraiment un mec que j'avais rencontré il y a un petit moment. Hein, c'était sur un autre salon plutôt orienté métal. C'est un mec qui traîne pas mal dans le milieu métal. On avait sympathisé à l'époque. Il s'était déjà occupé des deux couvertures de mes deux premiers romans. Et c'est lui qui a créé ce logo, et c'est lui qui a eu l'idée absolument géniale de mettre ce G ensanglanté qui rappelle bien évidemment la collection Gore. Donc c'est non seulement un clin d'œil, et puis c'est aussi une référence appuyée, c'est-à-dire que clairement tu vois, tu parles du format poche, c'est un format auquel moi je suis extrêmement attaché pour la collection Carnage, parce que c'est le format de la collection Gore, parce que c'est le format du livre qui se lit rapidement, qui se glisse dans la poche, un format poche, ça ne s'invente pas, du petit bouquin qu'on lit et puis qu'on peut même jeter presque après, hein. C'est-à-dire qu'un bouquin de poche, c'est pas l'édition sacrée, extrêmement belle, tu vois, très chère, etc. C'était vraiment cette volonté d'avoir ce petit format comme Trash l'avait fait avant nous, et puis la collection Gore. Et voilà. Et donc logo Will Argunas à 100%.
C'est aussi des formats dans lesquels on retrouve plus la littérature populaire, moi je pense.
Tout à fait, oui, oui. Bah, oui, oui. Bah, le poche à la base, hein, c'est le format de livre bon marché. Hein. Les livres, c'est encore le cas maintenant, mais les livres sortent d'abord dans la belle collection, hein, celle que tu ranges dans ta bibliothèque, et que tout le monde, que t'es content d'exposer un petit peu à tout le monde. Le livre poche, c'est quelques mois après, t'as un peu la version cheap du bouquin qui sort, un peu moins cher. Et donc effectivement, c'est complètement raccord avec la littérature populaire. Fleuve Noir sortait tous ses bouquins en poche, alors pas tous, il y a eu des grandes éditions, mais du moins la plupart. Donc oui, la littérature populaire, la littérature pas chère, mais qui dit populaire et pas chère dit pas non plus littérature, mauvaise littérature en fait, hein. Donc voilà, oui, non, c'est vraiment un choix très, très réfléchi, ce format poche, ouais.
Ok. Moi, je te propose qu'on balaye un petit peu les 8 premiers tomes qui sont sortis. On commence par le premier, Sanction.
Ouais.
Alors, écrit par un certain Talion. Donc,
Talion.
Voilà. Et donc, il y a aussi cette tradition du pseudo que vous avez gardé.
Ouais, c'est ça, exactement. Il y a deux raisons en fait, hein, pour Sanction. L'auteur qu'on va appeler David D, bon, c'est pas un mystère, hein, les gens qui gravitent un petit peu dans l'entourage de la collection, c'est de qui il s'agit. Donc on va pas donner son nom de famille, mais bon voilà. Donc c'est un auteur qui on a voulu taper fort en fait pour le premier. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'auteur de ce premier tome, c'est un peu le parrain de la collection, dans le sens où c'est un auteur qui a écrit un livre récapitulatif sur la collection Gore, donc cette fameuse collection Fleuve Noir, hein, dont tu as fait référence tout à l'heure, qui est un peu la base, hein, de cette littérature horrifique, gore, porno, qui est parue chez Fleuve Noir dans les années 80. Et donc Talion, il a écrit un énorme bouquin, une référence qui reprend tous les tomes de la collection Gore, qui les dissèque. D'ailleurs, ça s'appelle dissection d'une collection, hein. Et il a contacté les auteurs de l'époque et il en a fait vraiment une bible, qui est un bouquin qui est extrêmement important pour moi, est-ce que j'ai réellement découvert les coulisses de cette collection, c'est-à-dire que je connaissais, mais j'avais jamais creusé dans cette collection. Okay. Et grâce à lui et grâce à ce bouquin, j'ai découvert des tomes que je connaissais pas, que j'ai rachetés, et donc et des auteurs surtout, enfin des romans absolument géniaux, hein. Je pense aux romans de Corsélien, de Joël Houssin, vraiment des perles de littérature populaire horrifique, à côté desquelles je serais passé si David n'avait pas sorti ce gros bouquin, la dissection d'une collection. Donc du coup, le choix de sortir ce premier roman, il coulait un peu de source, sachant que sans ce livre et sans la collection Trash, il n'y aurait pas eu pour moi de collection Carnage. Donc ça, c'était la première chose. Et on a voulu taper fort, hein, pour le premier tome, c'est-à-dire faire un bouquin, je vais le dire, qui est carrément dégueulasse, hein, qui est vraiment immonde. Je pense que c'est le plus hardcore qu'on ait sorti des 8, parce que c'est un bouquin qui fait très mal, avec des scènes extrêmement, j'allais dire graphiques, c'est pas graphique parce que c'est des littératures, mais qui sont extrêmement explicites, très porno, très gore. Et donc voilà, et si tu veux, il y avait ce double sens de, du pseudo, c'était bon, un, bon, c'est un mec qui a une famille, qui a un métier, donc c'est un peu délicat quand, quand les gens, et certaines personnes qui peuvent ne pas comprendre l'humour ou le second degré qu'il y a derrière. Mmh. On n'est pas des malades mentaux, les sévices absolument atroces qui sont décrits dans le bouquin, on n'a pas du tout envie de les faire en vrai, au contraire, le, dans un bouquin, c'est un exutoire, c'est de la fiction, c'est des romans, moi ce que j'appelle des romans de sale gosse, hein, pipi caca, on en fout des tonnes, puis nous ça nous fait bien rire, et si ça choque le coup d'âme, bah, ça, ça nous fait encore plus rire, quoi. Il y a un côté presque punk, tu vois, dans, dans cette démarche. Donc voilà, donc il y avait déjà, bon, après mettre son nom en entier, c'est un peu compliqué, et il y avait ce truc de... Bah en fait, il y a beaucoup d'auteurs dans la littérature populaire dans les années 80 qui signaient sous pseudo pour une raison très simple, c'est qu'en fait, la plupart du temps, ils étaient déjà sous contrat avec une maison d'édition, donc ils n'avaient pas le droit de sortir de, des livres chez d'autres éditeurs sous leur propre nom. Donc c'est pour ça qu'ils utilisaient des pseudos. Donc voilà, il y a aussi cet hommage à la littérature populaire des années 70-80 d'utiliser un pseudo, voilà, pour coller tout simplement à cette image. Donc Sanction, voilà, c'est un roman qui est très très qui est vraiment crade, quoi, qui est dégueulasse. Moi, je t'avoue, c'est pas le bouquin que je crois lire 15 fois, mais c'était pour envoyer un grand coup d'envoi là, sur les débuts de cette collection, puis taper fort, quoi. En gros, c'est bon, bah voilà, nous, on va vraiment taper dans le vrai gore, quoi, hein, parler de tripes, parler de cul, donc voilà, ça donnait le ton, mais on va en parler après sur les tomes qui sont sortis, c'est que, attention, c'était pas non plus une sorte de cahier des charges du reste de la collection, qui allait absolument pas être une surenchère, mais ça, on va en parler avec les autres tomes, quand même.
Ouais, ça aurait été un peu compliqué aussi. Ouais.
Ça me rappelle Nécroporno, oui. Le premier tome qui ouvre la collection Trash, qui est un peu, ouais, dans le même genre, on en met un peu plein, ouais, la vue, et même Jean-Hugues, qui est pas trop fan de la collection Gore.
Mais c'est un copain à lui qui l'a écrit, Robert Darnel.
Ouais, il avait vraiment pissé de rire, il m'a dit.
Ouais.
Trash avait fait quand même un cahier des charges, hein, et ils avaient aussi fait un truc, les choses qui s'interdisaient.
Oui.
Et Robert Darvel, en fait, des nécropornos, avait déjà justement lui mis ça dans le livre.
Ouais, ouais.
Pour les titiller, je crois. Donc ça avait volé un petit peu en éclat leur leur déontologie, je sais pas comment t'appelles,
ouais,
ça.
Ouais.
Bon, vous, est-ce qu'il y a des tabous justement en tant qu'éditeur là?
Ouais, alors il y a pas de tabou, mais il y a des choses que moi je ne sortirai pas. Si tu veux, je veux que ça reste fun, cette collection, que ce soit vraiment du pur entertainment, voilà, qu'on s'amuse, si tu veux. Non, moi ce que je m'interdis, c'est sortir des pamphlets politiques et religieux.
D'accord.
Voilà, okay. C'est les deux thèmes que j'ai pas du tout envie d'aborder, parce que pour moi c'est pas le lieu dans des bouquins de pur divertissement horrifique. Et parce que on sombre tout de suite dans quelque chose de plus sérieux, qui atteint plus les gens, qui crée des polémiques. Et bon, on n'est pas là pour en créer de la polémique. On est là pour s'amuser, pour choquer. Je me pose si on est là pour choquer, parce que est-ce que ça choque encore du gore en 2022? Je suis pas sûr. Mais on est vraiment là pour s'amuser, pour faire les sales gosses, pas pour s'attaquer à des sujets politiques. Moi, ça m'intéresse absolument pas du tout de faire ça. Et des sujets religieux, non, sujet aujourd'hui beaucoup trop. Beaucoup trop touchy, quoi. Beaucoup trop ouais touchy, quoi. Faut faire attention un petit peu à ce qu'on fait, et puis voilà. Et ce que j'interdis aussi, c'est que les bouquins soient trop le reflet d'opinion personnelle de l'auteur, quoi. Encore une fois, je veux que ce soit du pur divertissement. On n'est pas là pour révolutionner quoi que ce soit, ou pour faire passer des idées quelles qu'elles soient. Donc voilà. C'est pas spécialement un tabou, mais c'est dans le cahier des charges. J'ai pas du tout envie de sortir des bouquins comme ça, quoi.
Ok. Bon, on va parler du deuxième tome, Acid Cop de Zaroff, qui avait déjà écrit deux Trash, lui.
Ouais, tout à fait. Stalker.
Ouais.
Bayou.
Et là, donc, avec une couverture qui nous fait penser à une certaine affiche de film, hein, d'ailleurs.
Ouais, bah oui, c'est vrai que il y a une petite inspiration de cette arrivée près de chez vous. Ouais.
Et le livre aussi s'inscrit un peu, enfin ça pourrait être un film d'action années 80, film urbain de Vigilante.
Exactement, ouais, complètement. Ouais.
Et Sébastien, justement, tu avais une question comme ça sur l'aspect cinématographique.
Moi je trouve que lorsqu'on balaye toutes les couvertures, Jérémy, il y a des références avouées, on va dire, à différentes facettes du cinéma d'horreur. Je pense notamment, là c'est vraiment criant, mais pour ceux qui connaissent le giallo,
oui,
pour le sixième, David Didelot. Et même, sans dire que c'est ce qu'il y a dans l'intérieur même du livre, parce que je ne l'ai pas lu, mais Romain l'a lu, pour moi, la couverture là du 8e, Court, Christine Court,
oui.
Ça me rappelle furieusement American Nightmare.
Et est-ce, ouais, que derrière, ça, ouais.
est-ce que derrière toutes ces références cinématographiques qui crèvent, on va dire, l'écran sur les couvertures, est-ce que ça se retraduit dans l'écriture d'ailleurs que des auteurs?
Ouais, complètement, parce que si tu veux, dans la plupart des auteurs, là, on est des fans de littérature, on lit beaucoup, on aime beaucoup la lecture, on est aussi, je parle vraiment au nom de tous les auteurs, on est des fans de cinéma, d'horreur aussi, beaucoup à la base. C'est-à-dire que je pense que ce qui nous a bercé, je crois pas me tromper, il faudrait demander aux auteurs, mais pour la plupart et les connaissants, ce qui nous a bercé, c'est plus le cinéma d'horreur que la littérature horrifique. Et pour une simple et bonne raison, c'est qu'on a tous à peu près le même âge, on a entre 40 et 50 ans, pour la plupart des auteurs, certains un peu plus et d'autres un peu moins. Mais globalement, à notre époque, dans les années 80, donc dans les fameuses années VHS et Vidéo Club, on avait beaucoup plus accès aux films d'horreur qu'à la littérature horrifique. En fait, la littérature horrifique, à part la collection Gore, à part vraiment des petits bouquins comme ça qui étaient accessibles, elle est arrivée vraiment fin des années 80, début des années 90, avec les Pocket Terror, etc., où tous les auteurs, là, Stephen King, Clive Barker, Graham Masterton, sont vraiment arrivés sur le marché. Mais c'est vrai que l'accessibilité de l'horreur, elle était beaucoup plus par le biais du cinéma, et on l'a tous découvert, cet univers horrifique, par le biais des VHS dans les vidéoclubs. Donc évidemment, je pense que ça a eu un impact extrêmement fort sur notre manière d'écrire, de construire les récits, et évidemment, tu fais très bien de le remarquer, ça se ressent énormément dans les couves, puisque quand je discute avec Will pour faire une couve, nos références, elles sont cinématographiques. Bah oui, de toute façon, est un cinéphile averti, qui a une énorme culture cinématographique, donc on parle le même langage beaucoup plus en matière de cinéma qu'en matière de littérature, pour son côté visuel aussi. Hein. Et dans l'écriture, je pense, parce que tu vois, quand on parle de Acid Cop, vous faites très bien de souligner qu'est-ce que t'es Vigilante Movie, hein, avec un justicier dans la ville, avec Exterminator, etc., c'est ces références-là qui viennent, c'est pas des références littéraires, quand bien même, Zaroff est un lecteur assidu, c'est un mec qui a une bibliothèque, je vais jamais aller chez lui, mais en tout cas je sais qu'il lit énormément, c'est un mec qui va te citer Jacques Ketchum, qui va te citer nombre d'auteurs horrifiques, donc c'est pas une question de pas avoir la culture littéraire, mais c'est une question que le socle culturel avant d'écrire un roman d'horreur, pour la plupart des auteurs, je mettrais peut-être Thierry Poncet un petit peu de côté, parce que lui c'est un auteur, et puis peut-être aussi Patrice Lamar, parce que c'est deux auteurs qui viennent vraiment de la collection Fleuve Noir, hein, qui était d'abord écrivain avant d'être cinéphile, je pense. Mais sinon, pour la plupart des autres, notre culture vient vraiment du cinéma. Donc on a une approche littéraire qui est de toute façon cinématographique. Et je crois même pas me tromper en me disant qu'on écrit peut-être notre trame narrative à la manière d'un scénario, en fait, hein, d'un scénario de film.
Ce qu'on voit dans Cosmos Cannibal, on en parlait au tout début, donc le morceau Cold Distant que tu as choisi.
Ouais.
Pour moi, ça me rappelle vraiment Cosmos Cannibal, et j'imaginerais bien donc ce livre adapté à l'écran. Ah. C'est quand même découpé de façon nerveuse.
Ouais.
Et le titre, justement, la musique t'inspire donc pour l'écriture. Ce que tu veux nous parler, Romain, aussi de Too Dead for Love avec Vasp.
On en parlait tout à l'heure, ouais.
Vous voulez qu'on, comme vous voulez, on peut parler de Cosmos Cannibal, ou sinon, oui. Si vous voulez, on peut parler aussi de Baby Trap, le tome 3. Vous voulez qu'on...
Alors moi, je l'ai pas lu, par contre.
Ouais.
Je vais pas pouvoir en parler. Bon, la couverture déjà fait un peu froid dans le dos.
la couverture, ouais. Avec ce mec avec une batte de baseball, ouais, qui va les taper dans un landau parce que il en a marre de son gamin qui hurle. Ça, juste on touchait deux mots. Ouais. Après, on passe sur le reste. Enfin, je suis désolé, je réoriente un peu le truc, mais je voudrais juste placer sur deux mots sur ce tome Baby Trap, parce qu'il est extrêmement important. Parce qu'en fait, Patrice Lamar, donc qui signe Patrice Hersant, sur ce tome 3, c'était un des auteurs de la collection Gore, justement. Il est sorti le bal des horreurs, je crois. J'ai plus le nom en tête. Honte à moi. En tout cas, il avait sorti un Gore en 1983, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, donc c'était vraiment encore un hommage et puis un plaisir, en plus avec un manuscrit que j'ai énormément aimé. Hein. C'était pas tant de sortir son bouquin à lui que surtout sortir un bouquin que j'ai eu énormément de plaisir à lire. Et donc donc un auteur vraiment de la collection d'origine, avec un petit roman que j'ai adoré, que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Ouais.
Mais là, pour le coup, c'est toi qui l'as démarché.
Alors non, c'est lui qui m'a contacté fait. Alors autant Zaroff et David, donc Talion, c'est des gens que je connaissais, parce que Zaroff, on avait déjà travaillé ensemble sur Hécatombe.
Oui.
avec Sam Guilleran. Enfin, voilà, on était une petite équipe à sortir un roman de Zaroff. Et on était déjà en contact. Et puis, il avait écrit dans un recueil de nouvelles qu'on avait sorti chez Zone 52. Donc, ça, c'est des gens que je connaissais. Autant Patrice, c'est quelqu'un qui m'a contacté spontanément. Voilà, en me disant qu'il avait écrit pour la collection Gore dans les années 80. Il m'a soumis son manuscrit que j'ai adoré, que j'ai vraiment trouvé super. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Ouais.
Super. Bon, alors parlons de Cosmos Cannibal maintenant. Ouais. Donc, avec moi, quand j'ai vu la couverture, je me suis dit waouh, on dirait Massacre à la tronçonneuse dans le décor d'Alien.
Bah, c'est exactement ça. Bah, c'était l'idée. Voilà, c'est mon troisième roman. Hein. Donc, je voulais vraiment faire un truc très fun. Pas spécialement méga gore, pas du tout porno. Par contre, je voulais croiser deux films que j'adore, puis surtout essayer de trouver un croisement entre deux univers qu'on n'a jamais vu au ciné ou en bouquin, quoi. Donc, je me suis creusé les méninges, je me suis arrêté western avec des extraterrestres, c'est con, parce que ça aurait été vraiment cool, j'aurais adoré. Bon, enfin, j'ai balayé comme ça plein de genres cinématographiques que j'aimais bien. Et puis, il y avait ce côté SF à la Alien, hein, vraiment le vaisseau, ou la station orbitale qui est habitée par une sorte de monstre, hein. On a vu ça un milliard de fois depuis le film de Ridley Scott, et en même temps la famille de dégénérés en mode survival, une famille qui arrive un peu à la dernière maison sur la gauche, plutôt la colline à des yeux, ouais, serait plutôt plus pertinent, mais qui arrive dans un univers qui est pas du tout le sien, très sauvage, et qui se fait poursuivre par une famille de dégénérés qui veut les bouffer, quoi. Donc voilà, c'était vraiment le croisement, mais tu cites vraiment les deux références qui ont été les miennes, hein. C'est Alien, rencontre, massacre à la tronçonneuse. C'était clairement ça, quoi.
Mais on va pas trop spoiler, parce qu'il y a des trucs que j'ai trouvé assez, assez marrants, assez ironiques,
oui, ça, ouais,
dans ce roman. Et mais on, voilà, on vous le conseille fortement. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a certains tomes qui sont épuisés déjà là?
Alors ouais, bah écoute, parlons-en. Oui, oui, il y a des tomes qui sont épuisés, puis il y a des tomes qui s'épuisent très très vite.
Okay.
Bon, c'est le boulot difficile de l'éditeur. Là, c'est vraiment le je pense que c'est le plus difficile, en fait, quand tu édites. C'est-à-dire que jauger du potentiel d'un bouquin pour en sortir le nombre d'exemplaires que tu vas pouvoir vendre sans qu'il te reste des cartons sur les bras, parce que bah, ça coûte de l'argent et que t'en as pas non plus des masses, et sans que ce soit épuisé au bout de deux semaines parce que t'as mal cerné la demande, c'est vraiment le plus complexe. Alors, moi je tiens un certain nombre d'exemplaires, à quelques centaines d'exemplaires. Il apparaît qu'il y a pas mal de tomes qui sont épuisés, puisqu'il y a eu un engouement vraiment dès le début de la collection. C'est vraiment, ça a explosé dès le début. Les gens ont vraiment répondu présent. C'est pas que je m'y attendais pas, mais j'en suis en tout cas extrêmement heureux. Enfin, disons que je l'espérais. C'est pas que je m'y attendais pas, c'est, en tout cas je l'espérais. Donc ça a vraiment bien fonctionné. Le fait est que ouais, il y a des tomes qui sont épuisés, puis pas mal, hein. Les quatre premiers, il y en a plus. Okay. Dead for Love, là, ça commence à être un peu compliqué parce qu'il a vraiment bien marché. Donc voilà. Et la question suivante, ça va être, mais alors, est-ce qu'il va y avoir des rééditions ou pas? Bah, c'est là où c'est un peu problématique, si tu veux. C'est que je travaille sur une collection, c'est-à-dire, je sais pas, sur un bouquin qui sort, ou je fais une pause sur toutes les autres activités en attendant d'exploiter un livre. C'est-à-dire que je veux en sortir 15 de cette collection Carnage, je pense que j'arrêterai après. Donc il y a un problème d'investissement, en fait, en tout bêtement financier, quoi. C'est-à-dire que moi, quand un tome est épuisé, si je refais un tirage, bah, ça va me coûter de l'argent, mais en même temps j'ai un nouveau livre à sortir. Ouais. Donc je peux pas investir dans deux choses en même temps. Je peux pas ressortir un bouquin et puis en même temps rééditer un bouquin qui est déjà sorti. Parce que s'il y a un souci que tout à coup le bouquin que je ressors qui est épuisé, bah, finalement il intéresse que 10 personnes sur les 50 que je pensais, ou sur les 200 que je pensais, bah, je reste avec un stock sur les bras, avec de l'argent que j'ai dépensé, et j'ai plus de quoi sortir de nouveaux tomes. Donc c'est pour ça que la disponibilité des romans Carnage, elle est un peu compliquée, parce que bah, il faut que j'arrive au bout de la collection, quoi, hein. Donc là, je priorise, si tu veux, la sortie de nouveaux livres plutôt que les rééditions.
Okay.
Donc, parce que je réponds à ça. Enfin, excuse-moi, tu vas pas poser la question, mais on me la pose tout le temps, donc ça me permet un peu d'y répondre. Mais du coup, on me pose la question, mais alors comment on fait, parce qu'on n'a pas le tome 1 ou le tome 2. Donc moi, je verrai ça à la fin, je pense, de la collecte. C'est-à-dire qu'en gros, si tout est vendu, qu'il me reste un peu de sous, qu'il y a vraiment une demande, moi, je les rééditerai, les bouquins. Si c'est un peu juste, que je me suis juste remboursé, mais que j'ai d'autres projets qui arrivent derrière, Bah, j'ai envie de dire, je suis vraiment désolé. Voilà, il y aura peut-être d'autres éditeurs aussi qui prendront le relais, qui feront des rééditions. C'est arrivé chez Trash, hein. Il y a des bouquins qui ont été réédités par Rivière Blanche ou par Diable Vauvert. Je pense aux bouquins notamment de Christian Siebert, qui ont été réédités. Bon, bah voilà, ce serait peut-être un moyen de se les trouver. Alors, ceci étant, je suis en train de réfléchir à peut-être ressortir une toute petite série sur vraiment les tomes qui sont épuisés depuis longtemps. C'est-à-dire les 1, 2, 3, 4, là, ou au moins 1, 2, 3 pour en refaire vraiment. Quelques dizaines vraiment pour satisfaire les gens qui m'envoient des mails. Mais je suis en train d'y réfléchir, je sais pas encore si je vais le faire ou pas. Il faut que je demande des devis. Et puis là, il y a deux tomes qui sont en préparation. Donc tout ça, c'est une question bêtement financière. Hein. Si j'avais des sous, j'en tirerais plein. Puis voilà. Hein, mais et bon, j'ai pas envie de griller toutes mes cartouches et pas arriver jusqu'à la fin de la collecte.
Ok. On va faire une petite pause musicale. Encore un de tes choix, c'est Wasp.
Ouais.
Jérémy, est-ce que tu es toujours avec nous
sur le
5.5
ouais.
Bon, ce choix, c'est un rapport avec un des tomes spécifiques de la collection Carnage, quand même.
Oui, avec avec To Dead for Love, qui est un hommage assumé à la scène glam metal des années 80. Voilà, l'auteur et moi, on est bien fans de beaucoup de ces groupes. Okay. Wasp en tête, ouais, complètement. Ouais.
Et d'ailleurs, Blacky Lawless, le leader de Wasp, a un rôle assez important dans ce roman.
Ouais, exactement. Et figure-toi qu'en plus, on s'était dit avec l'auteur qu'on lui enverrait à Blacky Lawless, qu'on ferait une petite enveloppe. On l'a toujours pas fait, donc faut absolument qu'on lui envoie. Voilà, j'espère que quelqu'un dans son entourage parlera français pour lui traduire un petit peu et qui sait. Oui, se prendre en photo avec, ça me ferait bien plaisir. Ouais.
Par contre, l'envoyez peut-être pas à Motley Crue parce que votre couverture reprend pas mal quand même.
Ouais.
Une certaine pochette.
Pardon?
Je dis, la couverture reprend une certaine pochette. Hein,
le titre. Bah, oui, Fast for Love de Motley Crue, évidemment. Ouais, bah, pareil, ouais. Ah, cette pochette, parlons-en, parce que cette couve, c'est quand même la plus explicite que toutes celles qu'on a sorties sur la collection. Et on a eu des discussions avec Queen en disant, ah, oh, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas. Hmm. Donc, je disais, on va se faire striker sur Facebook. On va envoyer ça, c'est évident que 14 minutes plus tard, on va se faire dégager. Puis, bah, écoute, c'est passé absolument comme lettre à la poste.
Ouais. Ouais, je crois que tant que tu mets pas des tétons, ça passe en fait.
Ouais, exactement. Bah, figure-toi que sur la couve de Sanction, on voyait le téton du cadavre qui est sur la couve et on a décidé de couper l'image en fait, hein, de la décaler un petit peu parce qu'on s'est dit c'est con, hein, mais on va avoir une auréole un peu rosée et on va se faire dégager en 2 minutes. C'est terrible, hein, c'est quand même assez terrible. Ouais.
Bon, après le documentaire sur Motley Crue, enfin, je sais pas si c'est un film tiré de leur. The Dirt, je crois,
ouais.
Montre aussi des scènes de fellation, hein, si je ne m'abuse. Donc...
Oui, oh, bah, tout à fait. Oh, bah, de toute façon, après Motley Crue, on est dans la collection Carnage, hein, sur The Dirt. Hein, le bouquin, il n'y a aucun souci, c'est bien trash comme il faut.
Et d'ailleurs, donc aussi sous pseudo.
En fait, l'auteur, c'est quand même très porno, son roman, très violent. Lui, il bosse sur des romans jeunesse, voire enfant. Donc le mélange des genres était un petit peu tendu. Là, il a vraiment insisté. Enfin, pas insisté. De toute façon, c'est même pas une question d'insister parce que j'ai dit oui tout de suite. Hein. Mais bon, il a préféré quand même sortir le bouquin sous un pseudo. Ouais.
Bon, on revient au numéro 5, Gohana Massacre, que moi j'ai pas lu.
Je te conseille énormément.
Oui.
C'est un bouquin que j'adore, qui est un peu moins gore que les autres. Clairement, tu vois, c'est là où je vais pouvoir dire ce que j'avais envie de dire au tout début de l'émission concernant Sanction. C'est que je m'attache vraiment à chaque fois qu'on sort un nouveau tome à proposer quelque chose de différent. C'est-à-dire l'idée, c'est vraiment pas du tout de faire que du gore, que du cul. Ça m'intéresse absolument pas. Je veux vraiment qu'à chaque fois qu'un bouquin sorte, il y ait une surprise littéraire. Qu'on sache vraiment pas du tout à quoi s'attendre. Et surtout qu'on nous emmène dans des univers et des styles complètement différents. Mmh. Et alors je suis tombé sous le charme de l'écriture de Thierry Poncet. Pareil qu'un un gars qui m'a contacté spontanément au début de la collection et qui est un gars qui a beaucoup travaillé pour Fleuve Noir, qui a fait beaucoup de réécriture en fait pour les années Fleuve Noir, qui a sorti quelques bouquins. Donc c'est un monsieur qui a une dizaine d'années de plus que moi, donc qui a pas mal bourlingué, qui a beaucoup écrit et c'est un bouquin que je trouve mais magnifiquement écrit. Il y a un style littéraire qui tue, quoi. Une économie de mots qui en même temps est extrêmement percutante. Il t'emmène dans des univers très précis avec une économie de phrases et puis un rythme dans l'écriture que moi vraiment qui m'a soufflé. Je trouve qu'il y a un très très gros niveau d'écriture dans Gohana Massacre. Et donc voilà, un roman que je suis très content d'avoir sorti, mais pour le coup, alors que oui, qui est un peu moins gore, il y a moins de scènes explicites, ça reste quand même de la grosse série B, hein, mais avec une classe vraiment littéraire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, pour moi c'est un petit peu pas un roman à part, mais qui est un petit peu moins gore à assumer que les autres, et c'est un roman que j'aime énormément. Alors c'est un roman qui a divisé, mais je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas trouvé leur compte parce qu'ils s'attendaient encore à avoir un gros truc d'horreur bien splatter, bien dégueu. C'est pas ce qu'ils ont trouvé dans Gohana Massacre, mais j'ai envie de dire tant mieux. Ça me plaît énormément, moi, d'avoir sorti ce bouquin. Et Thierry Poncet, un mec qui a une écriture que je trouve magnifique, vraiment.
Est-ce que tu reçois beaucoup de manuscrits spontanément maintenant?
Bah écoute, moi depuis quelques semaines, mais au tout début, pas mal, ouais. Ouais, j'ai reçu pas mal de manuscrits, ouais. Ouais, j'ai reçu pas mal de choses. Donc voilà. là, évidemment, il y a peu de... Je peux en sortir peu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, au tout début de la collection, j'avais déjà un pool d'auteurs. J'avais déjà des gens avec lesquels j'avais envie de travailler, qui avaient envie de travailler avec moi. Il y a des gens avec lesquels j'avais déjà travaillé. Parce que j'ai sorti on a sorti chez Zone 52, il y a 3 ans, un gros recueil de nouvelles avec beaucoup d'auteurs qu'on a côtoyés pendant des années. Et c'est des gens à qui j'ai tout de suite proposé d'écrire pour la collection quand je l'ai monté. Donc j'avais déjà une dizaine d'auteurs qui étaient calés, alors peut-être un peu moins, peut-être 8, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que les manuscrits que je reçois, il y avait peu de place pour les nouveaux et les gens que je connaissais pas. Donc j'en ai pris. Par contre, c'était extrêmement sélectif, clairement. Je dis 8, ouais, c'est ça. Il y a la moitié de gens que je connaissais, la moitié de gens que j'ai pris spontanément. Donc voilà, donc c'est un peu le truc un peu ingrat, hein, quand j'aime pas dire non, j'aime pas dire aux gens, écoute, c'est cool hein, ce que tu m'envoies, mais c'est pas au niveau, ou c'est pas ce que je cherche. Bon, donc voilà, la sélection est un peu drastique, parce que voilà, je sais ce que je veux exactement. Je veux des manuscrits extrêmement différents, avec des styles différents, et avec une maturité d'écriture, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a un seul auteur dans la collection dont ça va être le premier roman. Il y en a un seul. Okay. Ce sera en fin de collecte, et encore, là, pour l'instant, c'est au stade de l'écriture, donc je pense qu'on va arriver à faire un truc vraiment cool, mais j'ai émis des réserves, j'ai pas encore promis la sortie, quoi. Hein, mais on est à 80%, je pense que là, le travail, j'ai un petit suivi sur le travail, ça me semble extrêmement sérieux, avec beaucoup de motivation, des extraits qui tiennent la route, donc ça va le faire, voilà. Mais c'est vrai que ça va être le seul auteur dont ça va être le premier roman, donc c'est vrai que je reçois beaucoup de manuscrits aussi, d'auteurs qui ont pas encore bossé. Alors, c'est ingrat parce que t'as envie de donner la chance, mais bon, sur un collègue, tu peux le faire une fois, mais pas 3-4, quoi, c'est un peu compliqué. Ouais.
Mais du coup, là, tout est prévu, alors tout est calé, en fait. Tu parlais de 15 tomes tout à l'heure.
Eh ben, écoute, tout est calé, là, ouais. Okay. Ouais, ouais, tout est calé. Là, on en est au numéro 8, et sauf accident de parcours, ou, voilà, hein, peut-être un auteur qui peut pas terminer son manuscrit, ou je sais pas, enfin, pour une raison X ou Y, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, ça se dit pas au jour d'aujourd'hui, mais on va dire aujourd'hui, ouais, tout est calé. Ouais, ouais, tous les tomes sont calés, là.
Avec une sortie à peu près tous les 3 mois.
Ouais, c'est ça, tous les 3 mois, bah après plus ou moins, parce que ça dépend. Tu veux, je mets pas la pression aux auteurs, moi j'ai pas ça sort au bout de 4 mois, ça sort au bout de 4 mois, hein. Mais si tout est prêt, si on arrive à tenir les délais, oui, c'est 3 mois à peu près, le temps de digérer un petit peu le tome qui est sorti, puis bah, après on s'y remet et puis on sort un nouveau tome. Après, si un auteur a besoin d'un mois ou deux pour travailler son manuscrit et pour livrer quelque chose de vraiment nickel, et que j'ai pas d'autres manuscrits finalisés avant le sortir, on le sortira au bout de 5 mois. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de calendrier, si tu veux. Il n'y a pas de... Je m'en fous, quoi. On sort quand c'est prêt, si tu veux. Surtout quand on est allé au bout. Parce que c'est vrai que je suis un peu chiant, hein, sur les manuscrits que je reçois, et que ce soit avec tout le monde. Hein. Je relis, je commente, je dis quand il y a un truc qui me plaît pas trop, quand... bon, voilà, quoi. Alors je sais que ça se passe toujours bien avec les auteurs, mais en plus moi j'écris, donc je sais que c'est cool aussi d'avoir un regard extérieur, et puis bon, bah les gens me connaissent un peu, hein, parce qu'on communique beaucoup quand on travaille sur un roman. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on essaie de le pousser au maximum, de le sortir quand vraiment il est fini, quoi, quand il est prêt, et pas se dire on va le sortir vite parce qu'on a envie d'en sortir un tous les 3 mois, quoi.
Bon, on va parler du tome 6, Firenze Rosa.
Ouais, 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 ouais. Donc de David Didlo, David D.
Ouais.
Ouais, bah écoute, moi c'est donc David D qui a écrit, on va voir si les gens suivent, et qui a écrit cette anthologie sur les livres gore. Hein, voilà. Donc David, on avait envie de retravailler ensemble sur un roman. Et en fait, c'est en discutant tous les deux, il a sorti un hors-série en fait pendant les vacances sur le Giallo. Hein, je crois que c'était pas cette année, c'était l'année d'avant, il y a un petit peu plus d'un an. Donc c'est un mec qui a une culture du cinéma italien qui est extrêmement impressionnante. Hein, travailler sur le fanzine Vidéo Autopsie pendant des années, donc c'est un mec qui a vraiment une culture du cinéma bis impressionnante. Je pense que c'est un des spécialistes français du cinéma bis italien, quoi. Et je dis, mais putain, en fait, bon, le giallo, c'est un style, un genre cinématographique que moi j'affectionne énormément, qui colle énormément au cinéma d'horreur, donc c'est des films d'horreur italiens avec un tueur ganté dont on va pas connaître l'identité, un whodunit, hein, très hitchcockien, et on va apprendre l'identité du tueur à la fin avec des meurtres très graphiques, hein, c'est vraiment ça le giallo. Et le giallo, en fait, ça vient de la littérature populaire italienne, puisque avant d'être des films, c'était des petits romans de gare italiens, quoi. Donc je disais, mais il faut absolument qu'on ait un giallo dans la collection, parce qu'on essaie de balayer comme ça un éventail assez large des styles horrifiques, donc il faut qu'on ait un giallo. Et la meilleure personne pour écrire un giallo, bah, c'est un mec qui en a une culture absolument phénoménale, quoi. Donc voilà, il a bossé sur ce manuscrit que j'ai adoré quand il me l'a envoyé, et puis bah, c'est le giallo de monsieur David D. Et puis bah, il était hyper content en plus de l'écrire, moi j'étais hyper content de le sortir. Donc voilà, c'était vraiment l'hommage. Et tiens, puis je vais spoiler un peu, mais le prochain qu'on sort, bah, c'est un petit peu une sorte de continuité de ce giallo, parce que ça se passera dans l'univers des films policiers italiens, donc qui sortaient à la même époque, hein, dans les années 70. Et donc, ça va être un petit peu dans la même époque, ces deux romans qui vont se répondre. Je trouvais ça très rigolo puis d'exploiter aussi. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de sortir un peu du côté américain. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de romans, les auteurs, bah, ils placent leur intrigue aux États-Unis, toujours pareil, hein, c'est vraiment le délire vidéo club des années 80, film d'horreur américain. Mais bon, il y a aussi les films d'horreur italiens, le cinéma horrifique italien, qui pour moi est extrêmement important dans cette culture. Donc ça me faisait plaisir d'avoir des romans qui se passent en Italie, en fait, pour bien appuyer que l'Italie a été extrêmement importante en matière d'univers horrifique, quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est que Firenze Rossa de Dante, enfin, ça fait référence à des événements historiques qui ont vraiment lieu. Enfin,
oui.
Des événements dramatiques, hein. Mais
complètement, ouais. Bah complètement, en fait, c'est super que tu le soulignes. En fait, David a écrit un bouquin sur le monstre de Florence, qui est un tueur en série qui a sévi donc à Florence dans les années 70-80, je crois que c'est à cheval entre les deux. Un mec qu'on n'a jamais arrêté, un peu comme le Zodiac, tu vois. Et donc il a sorti un bouquin, donc c'est un fou de cette affaire criminelle, hein, et encore un spécialiste, donc il a enquêté, il a vraiment fait un travail de fou, et puis il a sorti un bouquin là-dessus. Et Firenze Rossa, bah, ça reprend un petit peu ces événements, ça lui a permis de se servir de son travail, puis de continuer son exploration finalement d'un fait divers sordide. C'est un mec qui a tué je sais pas combien de couples, j'ai plus l'histoire en tête, mais c'est absolument atroce. Et en même temps, ça a nourri une part d'imaginaire dans la littérature et le cinéma en Italie. Donc il s'est réapproprié un petit peu ça pour rendre hommage aussi à cette exploitation de ce fait divers qui a fait presque un genre à lui-même en Italie. Donc voilà, c'était une sorte de double hommage à des choses qui le passionnent. Je trouve ça assez cool en plus, parce que du coup ça donne envie de relire son bouquin sur le monstre de Florence. Ouais, tout à fait, ouais.
Et on va passer au huitième tome qui est tout frais là, donc ouais. Cour Christine Cour, avec une couverture qui cette fois fait penser au slasher.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. Bon, on est tout à fait dans le dernier slasher. Alors, j'ai deux mots sur l'auteur, Krapoviak, hein. Donc, pareil, encore un pseudo. Bah, lui, en plus, c'était une rencontre absolument géniale, parce qu'en fait, donc, on a une connaissance, une amie qui travaille sur France Culture dans un mauvais genre. Et elle a une veste en jean sur laquelle il y avait un patch d'une couverture d'un roman gore, L'autoroute du massacre de Joël Houssin. Et un jour, elle était dans une gare, je sais plus où, je crois que c'était Vichy ou une gare, je sais plus où, enfin en tout cas quelque part en France. Et il y a un mec qui l'accoste sur le quai en disant oh, putain, le patch derrière votre dos, incroyable quoi, parce que c'est un truc qu'on voit jamais, personne connaît, et puis encore moins voir une nana avec un patch sur une veste. Donc il commence à discuter un petit peu. Lui, il lui dit qu'il écrit des giallos. Elle dit ah bon. Et puis bah le mec se barre, il lui donne même pas son nom en fait. Donc elle se dit bah attends, c'est con quand même. Je voudrais savoir ce qu'il écrit. Donc elle fait des recherches, elle arrive à le retrouver sur internet. Elle le recontacte. Elle dit bah c'est con, tu m'as pas donné ton nom. Lui dit bah non, bon c'était juste pour discuter un peu comme ça. Et puis elle lui dit bah écoute, moi j'ai un pote qui sort des bouquins gore. Ça peut peut-être l'intéresser. Elle nous a mis en contact, on a bouffé ensemble. Il m'a envoyé des extraits de ses romans. Putain, j'ai trouvé ça super bien écrit. Je l'ai mangé avec lui un midi, on a passé un moment super, un mec adorable, super cultivé, grosse culture cinématographique. Le mec écrivait bien, donc je dis vas-y, banco, on y va, quoi. Et donc voilà, il m'a envoyé son manuscrit Cour Christine Cour, qui ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs. À l'époque, ça s'appelait La Nuit des Vers. Et on l'a changé parce que La Nuit des Vers, il y avait la Nuit des Vers, je ne sais plus comment. Dans la collection Gore, enfin ça ressemblait un petit peu trop à un titre qui avait déjà été employé. Donc on l'a rebaptisé Cour Christine Cour, et pareil, je suis tombé sous le charme du manuscrit que je trouve mais extrêmement bien écrit, super efficace, et puis qui change encore de style par rapport à ce que que j'avais proposé dans les autres tomes. Mmh. Donc voilà, tu vois, une rencontre alors complètement hasardeuse. Le mec m'a même pas contacté pour me proposer un manuscrit, tu vois. Il a, c'est vraiment sur une rencontre fortuite, comme mmh. ça, je trouve ça absolument génial. Et puis, bah, le gars, hein, Benoît, il écrit hyper bien. Puis voilà. Et tu vois, je touche un mot des auteurs, c'est vraiment un truc que j'adore là, dans cette collection et dans le travail qu'on fait ensemble, c'est qu'il y a un esprit vraiment qui est top. C'est-à-dire que j'ai la chance de travailler avec des auteurs qui ont tout à fait saisi ce qu'on faisait. C'est-à-dire que bon, on n'est pas Gallimard, on n'est pas Hachette. Moi, je suis un éditeur complètement indépendant. Je fais ça sur mon temps libre. C'est pas mon taf, hein, c'est pas mon boulot. Moi, je suis prof à côté, voilà. Et donc, on n'a pas forcément des gros moyens de distribution, de tirage. Et en fait, il y a une sorte de communauté qui se crée entre tous les auteurs, d'entraide. Enfin, je travaille avec des gens adorables, quoi. Et c'est extrêmement satisfaisant parce que non seulement ça, mais en plus, on bourré de talent. Donc, c'est pour ça que c'est une expérience vraiment top, quoi. Donc voilà.
Bon, bah nous, on va devoir bientôt rendre l'antenne, ouais. Jérémy. Ouais.
Ouais, ouais,
quelques mots sur le prochain, parce que c'est Julien Elbrock qui est censé l'écrire.
Ouais, exactement. Bah qui l'a fini d'ailleurs. Hein. Voilà, il est en relecture là en ce moment. Okay. J'ai pas reçu. Là, je suis assez. J'ai vachement hâte de le lire. Ouais, c'est Julien qui l'écrit. Julien, donc, est un des fondateurs de la collection Trash, qui est quelqu'un que je côtoie depuis pas mal de temps, parce qu'il avait écrit même dans mon fanzine, qui est pas le mien à moi tout seul, parce qu'on était toute une équipe, mais dans Zone 52, hein, parce que avant de commencer les éditions et de sortir des romans, c'était un fanzine. Hein. On a commencé par sortir un fanzine chez Zone 52 qui traitait de culture populaire et il avait écrit des articles à l'époque. Moi, je l'avais contacté au moment de Trash, d'ailleurs, parce que j'avais adoré son roman
Pestilence,
qui se passe au Moyen-Âge. Pestilence, ouais. Exactement. Qui est vraiment un de mes préférés, hein, dans la collection Trash. J'avais contacté pour lui dire que je trouvais ça mortel. Puis, bah, voilà, on est resté en contact. Et puis, bah, on a bossé ensemble. Et puis,